Bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast Ivoire Talent. Vous avez reconnu la voix, c'est Marc Landry et Franck pour le podcast Ivoire Talent. Nous sommes toujours avec Marlène, notre invitée experte en ressources humaines. Aujourd'hui, nous allons aborder la dernière phase qui parlera de rémunération, de négociations salariales et aussi de démission. Ok.
Oui, on va rentrer tout de suite dans le sujet. Il y a un follower qui nous a posé la question suivante. En fait, il nous demande pourquoi, en publiant les offres d'emploi, les entreprises n'affichent pas directement le salaire maximum qu'elles sont prêtes à donner à celui qui veut le recruter. Et il continue en disant ça nous éviterait de faire des efforts inutiles.
Parce que, je vais répondre, parce que tout le monde va se positionner sur le salaire maximum. Et ce n'est pas le but du jeu. Voilà.
Ouais.
Vous savez, en vérité, je vous dis encore, je vais répéter ma phrase, une société, ce n'est pas l'armée du salut. Le but, c'est d'avoir le meilleur profil, mais sans forcément vouloir dépenser des fortunes. En vérité, tout le monde gère, et toutes les sociétés sérieuses, en tout cas, gèrent leurs charges salariales. Tout le monde gère ses charges, voilà. Parce que ce sont les charges, c'est une fois que on retire nos charges, qu'on voit véritablement ce qu'on a gagné. Donc, si la masse salariale englobe tous nos gains, en vérité, on n'aura rien gagné. Ce n'est pas le but. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que dans certains pays, on affiche la fourchette basse et la fourchette haute. En Côte d'Ivoire, les gens ne sont pas prêts. Moi, je le dis, les gens ne sont pas prêts. Le salaire est trop tabou en Côte d'Ivoire.
C'est clair.
Trop. Je dis, c'est parce que je travaille dans une société connue et que je suis recruteuse que je peux vous dire aujourd'hui que par rapport aux recherches, par rapport aux personnes, par rapport aux gens que je fréquente, que je commence plus ou moins à mettre un certain niveau de salaire sur les postes cadres, sur les postes non cadres de ce pays. Mais quand j'essayais de revenir en Côte d'Ivoire, mais c'était totalement...
C'est vrai que c'est un sujet très tabou, ouais. même dans les couples en plus.
C'est tellement tabou que je suis en train de me demander, mais les gens fonctionnent à l'aveugle. Les gens fonctionnent à l'aveugle. Et tant qu'on va fonctionner à l'aveugle, les entreprises vont continuer de jouer sur le terrain. Parce que, je veux dire, en France, pour tel métier, vous tapez sur Internet, on va vous donner la fourchette tout de suite.
Tranquille.
Aux États-Unis, c'est pareil. On connaît les fourchettes. Mais ici, là, vous pouvez faire le même métier. La personne a le double de ton salaire, d'autres ont le triple, d'autres ont le moins. Tout ton poste, on veut recruter quelqu'un qui a deux fois moins que toi. Mais tu te dis, mais ça, c'est quoi ça? Et limite, tu es un peu honte, même tu es un peu gêné de dire à la personne, mais en fait, moi, j'avais le double et le triple de ton salaire. Quoi.
C'est clair.
Mais parce que quand on finit de faire tout ça, écoutez, moi, je pense que ça dépend un peu de nous. Hein. Si on commençait à briser le tabou sur les rémunérations, mais on n'est pas prêt. Et puis, imaginez-vous, il y a des gens qui ne veulent. Les gens ne veulent pas. C'est comme on a une question qu'on aime poser aux gens en entretien. On fait des entretiens téléphoniques chez nous avant de recevoir des personnes en entretien physique. Mais quand vous demandez, quelle est votre rémunération actuelle, les gens se braquent. Mais moi, je ne sais pas le nombre de fois en France j'ai annoncé ma rémunération actuelle. Si tu es un faux recruteur, si tu n'es pas un faux recruteur, je m'en fous, il a fini, je t'ai dit.
Ah, c'est à ton niveau.
Tu me dis que celle-là fait le malin, voici son salaire. Bon, j'ai fini de te dire. Mais ici, là, donc je imagine le poste que toi sur lequel tu te chantes tous les jours et puis on affiche le salaire comme ça devant la terre entière. Bon,
je sais pas. Si je t'ai dit.
C'est quand même les deux volets. Le salaire reste très confidentiel en Afrique. En Côte d'Ivoire, c'est très confidentiel encore.
Effectivement.
Voilà, c'est tout.
Et toujours dans la même veine, hein, il y a un auditeur qui demande pourquoi, lorsque les ressources humaines sont prêtes à mettre, par exemple, 2 millions sur le poste et que tu proposes, par exemple, 1 700 000, ils ne te donnent pas, en fait, les 300 000 supplémentaires. Pourquoi ils le font?
Ce n'est pas l'armée du salut. Encore une fois, comme on a fait, quand on fait la. Les postes, on a fait la tarte. Il y a personne qui, dès qu'ils rentrent dans une société, ils sont déjà, puisqu'il y a une cartographie en fonction des métiers, une grille de salaire également. Donc, vous rentrez dans la fourchette haute. Après, vous vous plaignez qu'au bout de 3-4 ans, vous n'avez pas d'augmentation. Mais dans la grille salariale de l'entreprise, vous êtes déjà au maximum qu'on peut donner à ce type de poste. Vous n'allez pas vous retrouver à avoir le même salaire que votre directeur, alors que vous n'êtes pas directeur. Donc, ça aussi, c'est un problème. Mais par contre, il y a des entreprises qui, si vous demandez 1 100 000, alors que le poste a 1 600 000, ils peuvent vous proposer 1 300 000 exceptionnellement. Ils peuvent vous proposer. Mais en fait, négociation, oui, il y en a qui le font. Dans une négociation salariale, il y a des managers même qui se battent pour avoir ça, parce qu'ils se disent, c'est bien. Oui, il vient d'une société où il n'est pas, où il est en dessous de notre grille, mais par contre, quand il va se rendre compte, ça va être compliqué, vous n'allez pas vouloir m'augmenter à plus de 40. Voilà, donc il y a des maladies. Il y en a. Par contre, ce qu'il faut comprendre au fait dans la négociation salariale, moi j'appelle un peu comme un jeu de poker menteur. Dans la négociation salariale, il y a toujours, chacun essaie de gagner un peu plus de marge. Donc, il ne faut pas vouloir à l'autre camp. Quand il gagne de la plus de marge que vous, quelquefois l'autre camp perd. Si vous voulez, si on peut parler de, en termes de win-win, il faut pas, moi, je pense qu'il ne faut pas parler trop en termes de win-win parce que si vous avez demandé quelque chose qu'on vous a donné, vous avez gagné. Et d'où l'importance aussi. C'est pour ça que je dis, non, mais parce que quelqu'un se dit, c'est un peu comme les gens me disent, moi, je ne veux pas annoncer mon salaire. Je ne veux pas annoncer mon salaire dans l'entreprise. Je dis, mais ça, c'est un faux problème. Moi, par exemple, aujourd'hui, je sais pour quel montant je serai prête à partir. Le jour où j'aurai envie de partir, parce que je ne suis pas encore à l'écoute de ma part. Le jour où j'aurai envie de partir de la société dans laquelle je sais le montant pour lequel, même si je veux, j'annonce mon salaire, même si tu dis, je sais, je le sais. C'est le même, je veux dire, c'est limite pas négociable, quoi.
Ah, ok. Je veux dire, mon ancien salaire ne conditionne pas, en fait, la prétention que tu peux avoir, en fait.
Les gens font croire que l'ancien salaire conditionne. Mais l'ancien salaire peut conditionner si toi-même, tu te laisses conditionner. Je donne l'exemple. Quelqu'un me dit, ah oui, si je dis que j'ai 600 000, les gens vont me proposer 900 000. Mais tu es obligé de... Refuse, il y en a qui refuse. 900 000, je vous ai dit que je ne partirai pas pour... Je ne partirai pas en dessous de 1,2 million. Mais il y en a qui refusent. Les entreprises tempêtent, ils reviennent, ils proposent 1,2 million. Ils sont en colère, mais ils le font. On ne peut pas se le permettre, mais à un moment donné de sa carrière, il faut se mettre en position de dire, il est temps que je puisse me le permettre, il est temps que je valorise les formations que je fais, il est temps que je valorise les certificats que je fais, je ne vais pas. Il y a des gens qui doublent leur salaire, il y a des gens qui triplent leur salaire, ça existe. C'est des cas qui sont rares, mais des personnes qui se disent, et même la stabilité professionnelle. Il y a des gens, parce qu'ils ont fait 5-6 ans dans une entreprise, ils le revalorisent. Ils disent, mais moi, je prends le risque de... Je quitte une entreprise qui m'a tout appris, qui m'a tout donné, qui m'a donné des formations sur 10 ans. Si toi, tu estimes que tu ne peux pas le payer, laisse-moi dans mon entreprise, mon poste à 50 ans, il faut évoluer.
C'est clair.
En fait, dans une négociation, c'est comme quand on va marchander, quand on marchande un article. Le monsieur commence à 10 000 alors qu'il sait que son article vaut 1 000 francs. Pourquoi tu dis 500? Mais pourquoi les gens veulent que moi je suis de l'autre camp? Et puis toi, tu veux que je me positionne dans ton camp? Mais je ne comprends pas en fait cette histoire-là. iPhone a un positionnement. iPhone n'a pas le positionnement d'Huawei. Je suis désolée. Même s'ils fabriquent un téléphone au même prix que celui d'Huawei, ils disent qu'ils ne sont pas Huawei. C'est leur positionnement.
J'avais envie de rebondir un peu sur la réponse. Je lui ai dit, dans le cas où, par exemple, la personne que l'entreprise souhaite recruter a gagné au jeu de poker, c'est-à-dire la personne a visé l'intervalle haut, par exemple, est-ce que l'entreprise peut avoir la personne en fait dans le collimateur en se disant, mais celui-là, voilà, il nous a bien eu au niveau de la négociation salariale, on va voir ce qu'il va faire. Est-ce que ça arrive des fois dans les entreprises?
Oui, il y a des gens qui sont rancuniers, comme dans Paris, c'est la bête.
D'accord.
Et puis, quelquefois, en fait, les gens ont toujours l'impression que les entreprises sont en train de gruger, les entreprises sont en train d'être. Ils sont méchants, mais ils sont quand même là. Et quelquefois, même, il y a des gens qu'on débauche, mais qui, la personne qui négocie votre salaire, la personne que vous venez remplacer, qui est à la table de discussion avec vous, là, elle vient de se rendre compte, vient de vous débaucher à 2-3 fois son prix, alors qu'elle est en train de quitter l'entreprise. Mais c'est ça, en fait. Tout ce qu'on fait a des conséquences, tout ce qu'on fait a des inconvénients. Si vous êtes dans la fourchette ou autre, encore une fois, pendant 2-3 ans, ne vous plaignez pas si vous n'avez pas d'augmentation. Mais ça aussi, c'est de la responsabilité de la personne qui vous recrute de vous dire que, mais là, vous êtes dans la fourchette ou autre, ok, on va vous l'obtenir, mais donc, ça va, vous savez, compliqué que vous obteniez une augmentation avant 2 ou 3 ans.
D'accord, d'accord. Ce qui permet en même temps d'aller sur la question qui suit. En fait, il y a des auditeurs qui nous ont demandé comment faire pour renégocier son salaire ou ses avantages, soit en étant dans sa position, par exemple, dans le cas où j'ai fait un certain nombre d'années dans ma position, comment est-ce que je renégocie mes avantages et ma rémunération, ou bien soit dans le cas de figure où je reste dans mon entreprise, mais j'ai eu une promotion. Parce que pour la petite histoire, il y a des entreprises où, lorsqu'on a une promotion, il n'y a plus d'échange sur le salaire. C'est-à-dire, dès que tu as la promotion, tu es aligné sur la grille salariale. Donc, la question, c'est à ces deux volets-là. Soit en restant sur ma position, ou bien en, après avoir eu une promotion. Comment faire pour renégocier son salaire et ses avantages?
Ok. Déjà, on renégocie son salaire et ses avantages en général à l'entretien annuel d'évaluation. Dans les sociétés sérieuses, vous avez un entretien annuel qui vous parle de vos objectifs, qui fait un point sur vos objectifs. En moyenne, on obtient une augmentation tous les 2 ans. Ça, c'est la plupart, c'est ça en fait, c'est la norme. Très peu de personnes obtiennent une augmentation après une année seulement à un poste. Donc, tous les 2 ans, voire tous les 3 ans. La moyenne, c'est 2 ans. Maintenant, pour certaines personnes, pour certaines sociétés, ils vous demandent de faire 3 ans à un poste avant d'obtenir une augmentation. Il y a les augmentations, quelquefois, sont plus ou moins automatiques. Les gens vont vous demander, vous augmentez vos salaires de 15-20% et tout ça. Il y a des augmentations exceptionnelles. Donc, chaque manager a une enveloppe qui est à sa disposition, en tout cas. C'est pour ça que je donne plusieurs exemples. Donc, j'en ai vu plusieurs en fonction des sociétés dans lesquelles je suis passée. Le manager a des enveloppes exceptionnelles et puis, exceptionnellement, il peut vous accorder une augmentation beaucoup plus que celle qui est autorisée au sein de l'entreprise. Parce qu'en fait, la direction des ressources humaines réglemente tout ça pour ne pas que les managers fassent tout et n'importe quoi. Pour ne pas qu'une seule personne se retrouve à avoir toute l'enveloppe de l'augmentation salariale de la direction. Vous comprenez? Maintenant, ce qu'il faut savoir dans la négociation de l'augmentation, elle se fait avec son manager. Toute l'importance de ne pas passer son année à insulter ou à critiquer son manager. Même si on estime qu'on est beaucoup plus intelligent que le monsieur, il faut quand même faire profil bas. Parce qu'à la fin de la journée, personne ne vous donnera une augmentation si votre manager n'est pas d'accord. À part si on est en train de mettre le manager à la porte. C'est des cas. Donc voilà. Comment négocier? Donc il faut attendre. Déjà, il faut présenter du factuel. Encore, on prépare les gens à venir en entretien de fin d'année. Je ne sais pas si dans les entreprises où vous êtes, mais sinon, c'est une préparation. On peut faire même des coachings personnalisés sur le sujet. Permettre aux personnes de faire des coachings personnalisés comment aborder son entretien annuel d'évaluation. Comment partir du factuel pour justifier qu'on mérite une augmentation ou pas. Ça, c'est un accompagnement spécial. Donc, présenter mes réalisations, présenter les choses qui n'étaient pas forcément dans mes objectifs que j'ai pu apporter. Et puis, à la fin de la journée, présenter des innovations en termes d'innovation et puis dire, mais par rapport à ça, sur 2 années successives, voilà, je pense que j'aimerais avoir une augmentation pour telle ou telle raison. C'est la façon la plus, je pense, correcte. Ensuite, il y en a qui jouent à des jeux très dangereux. C'est-à-dire, ils vont, ils passent des entretiens, ils voient leur valeur sur le marché. Et puis, ils viennent dire à leur employeur, il y a telle entreprise qui m'a proposé ça. Je n'ai pas envie de partir, mais vraiment, le salaire est trop intéressant. Il y en a qui le font pour pouvoir rechallenger leur salaire. Et ça, c'est un jeu très dangereux.
Ça, c'est intéressant.
Parce que vous venez faire ça. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'il y en a même qui poussent le bouchon. Ils déposent une lettre de démission alors qu'ils n'ont pas envie de partir. Ils estiment qu'ils déposent une lettre de démission et ils pensent qu'ils vont avoir une contre-proposition. Moi, je connais des gens qui font ça. Ils n'ont jamais eu de contre-proposition. On leur a dit, OK, merci. Ils s'en vont quand?
Waouh!
Mais est-ce que l'entreprise aussi peut être en train de s'amuser quand il dit ça?
Quoi?
Quand l'entreprise
dit... Tu t'en
C'est pas du bluff aussi.
C'est pas du bluff, hein. C'est des choses qui engagent les gens, hein.
Oh là là, ok.
Parce que on demande au monsieur, on dit la personne quand est venue déposer tant, sa démission quand. Quand la personne y avait parti tant, qu'est-ce que tu as? Un manager qui a envie de garder son équipe en même temps, il te rend, il vient te dire, mais pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que tu veux? C'est un fait d'argent. Mais il y a des moments. Bon, la personne dit, bon, ok, oui, peut-être c'est une belle opportunité. De toute façon, on peut te remplacer. Et puis, il te dit, merci. Il y a des managers qui estiment que même s'ils ont envie de te garder, ils estiment que tu ne peux pas venir déposer ta démission sans venir leur dire au préalable que tu as eu une autre offre.
En effet.
Donc tu sors d'orgueil, il te dit merci, alors qu'il a vraiment besoin de toi, mais il te dit merci. C'est au fait, c'est là que c'est beau, les ressources humaines, au fait. Parce que derrière nos gros titres, derrière nos positions, on est des humains, c'est la vraie vie, quoi. Mm-hmm. Donc, voilà, c'est comme ça qu'il faut... Oui, en début, parce que, de toute façon, même, je dis tous les jours que c'est des relations humaines. Mmh. Il faut apprendre à connaître son manager. Il faut apprendre. C'est toujours bien de renégocier, de parler. C'est pour ça que l'entretien annuel d'évaluation, c'est un entretien. À part si vous ne voulez rien. Moi, par exemple, dans l'entretien annuel, je ne veux rien. Quoi. Mais si vous voulez quelque chose, c'est le moment de parler à votre manager. C'est le moment de lui dire, voilà ce que j'ai fait. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, et il va vous dire, il peut vous dire non, il peut vous dire les ressources humaines ne veulent pas. Et puis, quelquefois aussi, n'écoutez pas trop les managers. Passez à la direction de la société. Pour demander que pendant des années, des managers ont fait croire à leur manager que c'est les ressources humaines qui ne voulaient pas qu'on augmente les gens alors que ce n'est pas vrai. Et tout ça, ça permet à une personne de prendre... des décisions en connaissance de cause.
D'accord.
Ok. Le annuel d'évaluation reste le meilleur moment pour renégocier les avantages à la hausse.
C'est bien noté.
Il faut jouer franc jeu avec son manager, d'où l'importance de garder de bonnes relations avec son manager. Il faut jouer franc jeu avec son manager. Voici, aujourd'hui, j'ai une autre proposition de l'ordre de temps. Pour être franc, j'ai une autre proposition. L'idéal pour moi serait de rester ici. Mais aujourd'hui, j'ai des obligations familiales qui ne me permettent pas de rester, ou des obligations de je ne sais quoi, qui ne me permettent pas de rester au même niveau de salaire. Votre manager va vous dire tout de suite, votre manager va se charger de contacter la direction des ressources humaines. Et ils vont vous dire tout de suite, c'est possible ou c'est pas possible.
Okay.
S'ils vous disent que ce n'est pas pour moi, vous savez. S'ils vous disent que c'est possible, on revient, on négocie quelque chose et puis on vous revient.
Mmh, ok.
D'accord. Là, c'est bon à savoir.
Donc, il ne faut pas dire le nom de la nouvelle entreprise où on veut partir. Ça, il ne faut pas le
faire. Ah, ok. Ça, pas même, le faire. Même si le manager ça, demande.
Non, il ne faut pas le dire. Il faut rester vague dans le secteur. Il faut donner le secteur si vous voulez. Il ne faut pas le dire parce qu'il y a des managers qui sont méchants. Ils vont appeler leur contact. Non, sérieux, pour vous faire de mauvaises références, il ne faut pas le faire.
Ok, d'accord.
Ok. Selon toi, Marlène, quelles sont les entreprises qui rémunèrent le mieux?
C'est une question foutue.
Ça, si je le dis, c'est compliqué. Aujourd'hui, je peux me vendre pour savoir. Non, là, franchement, je ne saurais pas. Je pourrais pas exposer, mais je vais dire au fait seulement, je vais répondre en disant que contrairement à ce que les gens pensent, les organisations internationales ne sont pas les secteurs qui rémunèrent le mieux dans ce pays. Ça, c'est un secret de Dieu. Contrairement, parce que plusieurs personnes rêvent. Ah oui, si je vais ici, non. Ceux dont on les salaires qui sont très bien rémunérés, ce sont des personnes qui sont en position d'expatriation dans les organisations internationales.
D'accord.
Mais on a des sociétés locales qui rémunèrent très bien leurs cadres. C'est tout ce
Mais
que je peux dire.
Tu peux même pas donner une indication sur le secteur d'activité de ces sociétés-là, par exemple? Pour rester large?
Non. Et puis, bon, chaque secteur a des avantages. Hein. Chaque secteur a des avantages. Chaque secteur a des avantages. Vous allez, chaque secteur a des avantages. Le secteur bancaire a énormément d'avantages. L'industrie a ses avantages.
Et d'accord.
Puis bon, les gens, il y a certaines personnes qui pensent aussi que les sociétés les plus connues rémunèrent forcément les mieux, non pas forcément. C'est des leurres, en fait. C'est des leurres.
Ouais, l'image de marque, en fait, peut tromper. Des fois, c'est surtout l'image, oui. L'image de marque, et puis pas forcément
l'image, le sens salarial. L'image. Par contre, il y a des avantages sociaux. Il y a des avantages qui sont pas négligeables. Il y a du sérieux dans les process. Ils font pas n'importe quoi. Ils ont une image à conserver. Ça aussi, c'est quelque chose. C'est des sociétés, par exemple, si vous voulez un prêt immobilier, ce sont des sociétés qui sont connues des banques. Ce sont des sociétés qui négocient des taux préférentiels par rapport avec certaines banques. Voilà. Ça, ce sont d'autres avantages que les grosses structures ont. Voilà. Que d'autres secteurs ont. Moi, je okay. connais très bien l'industrie pharmaceutique qui n'est pas connu, mais pourtant ils n'ont rien à envier à, je vais dire, au monde de la téléphonie, si vous voulez, je peux dire ça comme ça, parce que longtemps on a pensé que la téléphonie, parce qu'ils nous font des publicités, machin et tout, non, pas forcément, non, mm-hmm. non wow. pas forcément, l'industrie pharmaceutique, on a des sociétés, l'industrie pharmaceutique, oui, qui rémunèrent très bien les cadres. On a des sociétés, les sociétés au niveau de quoi, les mines, c'était quelquefois de faire des déplacements fréquents dans des zones un peu perdues de la Côte d'Ivoire. Ça fait des inconvénients. Ça fait des inconvénients. Voilà. Mais je veux dire, renseignez-vous bien, les organisations internationales, à part les espaces, ne sont pas les sociétés qui rémunèrent le mieux.
Waouh. D'accord. Ah, c'est un vrai son, en fait.
Ça, je sais. Je sais que c'est un son. Les gens se rendent compte de ça, on tombe à la renverse, parce qu'il y en a qui ont fait ces grilles salariales-là, vous n'imaginez même pas.
Waouh.
Je suis très contente d'être dans le secteur bancaire. Ça, je suis contente d'être dans le secteur bancaire parce que, en termes d'avantages, je sais ce que le secteur bancaire a. Mais on aura l'occasion, entre amis, de parler. C'est pas des choses comme ça.
D'accord. Mais comme tu es du domaine des ressources humaines, il y a un auditeur qui nous demande pour un CDD ou un CDI, hein, pour un junior diplômé en ressources humaines qui a seulement une année d'expérience. L'année d'expérience a été acquise durant un stage, bien entendu, en Côte d'Ivoire. Donc, quelles prétentions salariales il pourrait demander? Bien entendu, je sais que c'est dépendant des entreprises, mais selon toi, quelle grille sur laquelle il pourrait s'aligner?
La fourchette entre 200 et 450
000. OK. C'est en brut ou en net?
Si tu veux, en net.
Ah, ok, c'est mieux.
Okay. Ouais. Okay.
Non, entre 200 et 400. En fait, ça va dépendre. Est-ce que son poste est cadre? Est-ce que son poste est non cadre? Mais s'il s'en sort pour un CDI avec une première expérience à 400 000, ce sera pas mal quand même.
Ok, d'accord.
On a un autre auditeur qui nous demande, est-ce que l'augmentation de salaire est une obligation pour l'employeur ici en Côte d'Ivoire?
Ça dépend des conventions collectives. Mmh. C'est une obligation légale, mais on a des conventions collectives au sein des entreprises qui disent que sous certaines conditions, si par exemple une personne a été au niveau des attentes ou au-dessus des attentes sur 2 ou 3 ans consécutifs, de façon consécutive, si cette personne-là, en général c'est ça, la personne doit avoir une augmentation de minimum temps, voilà. Mais non, c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire.
Non, ça dépend, parce que dans certaines conventions collectives, c'est obligatoire après 3 ans. C'est bien ça, si j'ai bien compris.
Dans certaines conventions, obligatoire si vous avez été au niveau des attentes. Il y a toujours le haut des attentes.
Okay. D'accord. D'accord. Maintenant, que faire lorsque, par exemple, vous avez été recruté, les ressources humaines ou bien le directeur des ressources humaines vous a fait des promesses
comme quoi vous allez avoir un car plan, vous allez avoir des avantages, vous allez avoir ceci, vous allez avoir cela. Mais bon, vous quittez l'autre entreprise, vous venez dans l'entreprise et ces promesses à l'avenir. Dans ce cadre-là, que faire? Est-ce qu'on peut mettre la pression sur le DRH pour réclamer en fait ces promesses-là?
C'est pour ça que les promesses, il faut demander qu'on vous les mette par écrit.
Ok.
Ça, c'est important. C'est vrai qu'il y a la promesse d'embauche, mais vous devez faire un mail, par exemple, pour demander suite à notre échange, j'entends. J'aurai tant, vous énumérez les avantages. Parce que tout ce qui parle n'engage que la moralité de votre responsable.
Okay.
C'est-à-dire, il n'y a rien, ce sera votre parole contre sa parole. Il va vous dire, moi, je vous avais promis un carton. C'est ce que vous avez dit.
Okay.
Moi, je vous ai jamais promis tant. Moi, je n'ai jamais promis tant. Qu'est-ce que vous allez dire, en fait?
Non, c'est ta parole contre la sienne, en fait.
Oui, c'est ça. Et l'inconvénient de pouvoir dire à son manager, vous m'avez promis tant dans une période d'essai, c'est qu'il a la possibilité de mettre fin à votre période d'essai sans réel motif. Quoi. Oui, il y a plein de personnes qui tombent des nues et il y a des informations aussi. Oui, il y a plein de personnes qui tombent des nues, mais bon, c'est pour ça. Au fait, la maturité, les expériences, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on est en train de prendre notre temps. Mais si les personnes prennent le temps d'écouter, ils vont sortir de là avec plein d'astuces, même pas forcément que pour des jeunes diplômes, mais pour des personnes qui ont un certain niveau d'expérience. C'est l'expérience qui fait au fait qu'on ne fait plus certaines erreurs.
Je confirme.
Voilà. Donc, moi, ce que je peux conseiller aux gens, c'est qu'on vous a promis des avantages quand vous les trouvez par mail. Au moins, vous avez une trace écrite.
D'accord. Également, on aimerait avoir tes conseils sur quels sont les points de vigilance à prendre en compte lors d'une démission.
C'est-à-dire, par rapport à quoi? La nouvelle entreprise ou par rapport à l'ancienne entreprise?
Par rapport à l'ancienne entreprise. On peut prendre en compte également la lettre même de démission et puis la démarche. Quels sont les points d'attention à prendre en compte?
Ok. Déjà, quand vous voulez démissionner, moi, je conseille aux personnes qui veulent démissionner d'en parler oralement à leur manager. Après, vraiment, vous n'en avez rien à foutre de votre manager qui vous aime, qui vous aime pas, vous voulez vous barrer, vous voulez plus rester. Ça, c'est un état d'esprit. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Mais par contre, vous voulez démissionner, vous partez voir votre manager pour dire bonjour, voilà. J'ai une nouvelle opportunité que je souhaite accepter. Je tenais juste à vous informer que je vais démissionner. Ça, c'est vraiment, je vais démissionner pour des. Je pense que pour aujourd'hui, j'aspire, par exemple, si vous n'êtes pas en position de management, j'aspire à une position de management. Aujourd'hui, j'aspire à une révalorisation salariale et j'ai cru comprendre que vous ne pouvez pas me l'offrir malgré que j'apprécie votre collaboration. J'ai besoin d'évoluer et on m'offre une opportunité d'évoluer et d'avancer. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est rédiger la lettre de démission que vous envoyez par recommandé ou vous avez la possibilité de faire une décharge, vous la déposez, quelqu'un décharge pour attester que vous avez reçu une lettre de que vous avez la personne, on a bien reçu votre lettre de démission. Si vous avez un département en ressources humaines, le département en ressources humaines va informer par écrit votre manager et tous les interlocuteurs et son N+1 même déjà, le directeur même de votre département que vous souhaitez partir. Dans la lettre de motivation, dans la lettre de démission, il faut préciser à quelle date on veut démissionner, si oui ou non on veut faire son préavis, parce que pour certains postes, on a un préavis. Voilà, ça c'est important. Vous n'avez pas envie de faire un préavis en Côte d'Ivoire. La loi l'encadre. Si vous ne faites pas un préavis, vous devez un certain montant à votre employeur en termes d'indemnité. Qui paye ce montant-là? Tout ça, c'est des choses que vous pouvez mettre dans la lettre de motivation, de démission. Mais par contre, ne faites pas une lettre de démission sans indiquer au préalable à quelle date vous voulez partir. Même si cette date va être négociée, il faut préciser à quelle date vous voulez partir. N'oubliez pas l'accusé de réception, parce que moi, ça m'est déjà arrivé de déposer une lettre de démission et mon chef a fait comme s'il ne l'avait jamais reçue. Il fait comme s'il n'a pas lu, comme s'il n'a pas reçu, parce que la lettre n'est pas arrivée par lui déjà. Donc, la personne à qui j'ai remis la lettre, la responsable ressources, évidemment, Elle a reçu la lettre, mais il fait comme s'il n'a pas. Et puis, il me disait, il dit, moi, je n'ai pas vu ta lettre. Hein. Donc, conséquent, moi, ce que j'ai fait derrière, c'est que tu fais un mail avec accusé de réception avec son N plus 2 en copie. Si c'est le directeur, je ne sais pas quoi, worldwide ou pays, ouais, mais bon, au moins, tu démissionnes, quoi. Tu sais, bonjour, le temps, j'ai déposé une lettre de démission, j'aimerais avoir la suite, machin, pour dire que tu as bien déposé et tu rappelles l'historique, quoi. Que j'ai déposé une lettre de dimension, j'aimerais parler avec vous.
Donc là, il faut toujours laisser les traces. Il faut toujours avoir les traces.
Vous laissez des traces. Il faut démissionner en laissant des traces. Ensuite, une fois que vous laissez des traces, maintenant, vous allez arriver à la table de négociation pour négocier. Est-ce que vous faites votre préavis ou pas? En Côte d'Ivoire, ce que j'aime bien, c'est qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à faire son préavis. Ça, j'aime beaucoup. Par contre, on est obligé d'indemniser son employeur. Donc, si vous devez démissionner, négociez avec votre nouvel employeur qu'il rachète votre... qu'il indemnise votre ancien employeur.
D'accord.
Oui, oui, parce qu'il y a des gens qui payent ça de leur poche. Attends, faut être...
Là, on apprend.
Oui, quelqu'un veut vous débaucher, mais qu'il paye l'ancien employeur. S'il ne veut pas que vous fassiez le préavis, mais qu'il paye. Parce que les gens vont vous dire, nous, on veut vous voir dans 2 semaines, dans 1 mois. Déjà, moi, j'estime, déjà quand quelqu'un vous dit, je veux vous voir dans 1 mois, vous dites, OK, moi, il n'y a pas de souci, mais par contre, vous me débauchez, j'estime que vous devez... moi, je ne pourrais pas payer les indemnités de préavis parce que je ne pourrais pas faire mon préavis. Moi, j'espère que vous me faites un chèque. Moi, dans 2 semaines, je suis ici.
Tranquille.
Voilà. Ça, c'est des choses qu'il ne faut pas avoir peur de négocier. Parce que sinon, c'est vous qui allez être en train de prendre sur vos économies pour payer ce que votre employeur, votre nouvel employeur, peut payer. Voilà. Et en gros, je pense que c'est ça. Mais n'oubliez pas surtout. Quand on démissionne, on prend le temps de se laisser en de bons termes. Franchement, on sourit, on rigole, on reste sérieux jusqu'à la fin. Parce que qui sait? Moi, j'ai remarqué, je vous assure, c'est une belle anecdote. Hein. Il m'est arrivé de débaucher quelqu'un. Et 3 mois après, j'ai débauché son ancien chef pour qu'il soit son nouveau chef ici.
Ça, alors là, si il est parti dans de mauvais termes avec son...
Malin, tu l'as mis dans problème même, en fait. Tu l'as mis dans problème.
Elle me disait, ah, monsieur, si j'étais, j'ai dit si. Ah, mais si c'était même mal terminé, j'ai dit, ah, mais t'étais foutu, hein. Écoute, la vie, toi, tu crois que quoi, c'est la vie.
franchement, waouh.
Et puis, quelquefois, moi, j'ai vu des histoires, hein. Des gens qui ont démissionné, c'est mal passé dans leur nouvelle entreprise et qui sont revenus dans l'ancienne entreprise. Mais si vous avez fait des histoires avec tous vos anciens collègues, vous êtes foutus.
Ah si, j'en connais. Il y a même des cas où des personnes avaient eu des promotions et elles n'ont pas validé la période d'essai de leur promotion et elles sont revenues avec leurs anciens collègues au niveau où elles étaient avant.
Wow. Bien sûr.
Ce sont des cas rares. Hein. Ne pas pouvoir valider sa période d'essai, de sa promotion. Parce que je veux dire qu'à la base, même lors des entretiens de promotion, ton nouveau boss, il t'a déjà accepté. Donc, tu ne sais pas, en tout cas, franchement.
Valider sa période d'essai, c'est un module de formation d'une heure 30.
Ah, voilà.
On ne valide pas sa période d'essai, pas parce qu'on n'est pas compétent techniquement, mais tout se joue au niveau de la personnalité.
Okay.
Il y en a qui sont compétents, mais qui ne valident pas leur période de
service. Et enfin, on a la dernière question des auditeurs, des internautes. Sur quelle motivation pourrait-on quitter un travail bien rémunéré pour un salaire plus bas?
Moi, je pense que si sur votre poste actuel, vous n'avez pas l'impression de gagner en compétence.
Okay.
Ce qu'on vend aux entreprises, c'est nos compétences. C'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on gagne. Si vous êtes à un poste où on vous paye, je ne sais pas combien de millions de francs CFA, et c'est un poste placard, un poste garage, mais en vérité, vous restez 2-3 ans, vous encaissez vos millions, mais vous ne pourrez même pas vous vendre, vous n'aurez même plus Qu'est-ce que vous allez vendre, en fait? Et celui qui n'apprend pas, désapprend. Donc, vous allez perdre ce que vous connaissez déjà. Vous allez être en mode garage. Non. Moi, je pense qu'il faut avoir le courage de dire, je suis à un poste, mais je n'apprends rien. Et quelquefois aussi, il y a des entreprises qui nous offrent des salaires, mais qui ne peuvent pas nous offrir d'évolution. J'en connais plein comme ça. Ils sont pleins à Abidjan qui offrent des salaires, mais vous n'imaginez pas, mais il n'y a aucune évolution. Vous pouvez pas évoluer. Vous êtes consultant senior, consultant junior, consultant moyen, consultant, ils sont consultants, mais après consultant, vous êtes quoi au fait?
C'est clair.
Vous ne gagnez pas en management parce que de toute façon, pour être manager un jour, il faut quand même manager une équipe. Vous n'avez pas la possibilité de manager des gens. Vous êtes toujours sur les mêmes projets parce qu'ils fonctionnent avec le même client historique depuis 10, 15 ans. Donc, mais non, il ne faut pas le faire. Ok.
Yep. D'accord.
Eh bien, nous sommes à la fin. Donc, Marlène, je vais te demander ton mot de fin et puis on va essayer de boucler.
Wow. Comme mot de fin, je pense qu'on a essayé de faire le tour en trois sections sur le quotidien des RH, sur le CV, la promotion, le recrutement et également sur la rémunération et les bonus. On n'a pas pu partir dans les détails parce que pas faire un podcast de plusieurs heures. Je pense que ce sont des informations générales qu'il faut remettre dans le contexte parce que les contextes sont différents. Donc, si vous avez remarqué, j'essayais quand même du mieux que je peux de nuancer. N'hésitez pas, franchement, sur toutes les problématiques, en tout cas, toutes les personnes qui vont nous écouter, n'hésitez pas sur toutes les problématiques de ressources humaines de prendre des conseils d'experts. Comme je le dis, une carrière, c'est trop important dans la vie d'une personne pour prendre les questions autour de la carrière, autour de l'évolution professionnelle à la légère. Merci beaucoup.
Super. C'est très bien dit. Bien plus. Nous sommes vraiment contents de t'avoir eu. Tu as donné des paroles fortes, des conseils très avisés. Et puis, nous espérons t'avoir encore à nouveau sur un autre sujet. Nous demandons à nos auditeurs de prendre le temps d'écouter ces podcasts, de continuer à nous laisser leurs impressions et de surtout partager à leurs amis parce que c'est important, il faut partager. Ils peuvent aussi, en dehors des podcasts, retrouver des cours sur notre plateforme Ivoire Talent et aussi des articles sur plusieurs domaines. Donc, sur ce, nous vous disons merci et à bientôt pour un nouveau podcast.
Merci à tous.
Au revoir.